Bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien.
Vous avez sûrement déjà entendu des prédicateurs des églises inviter les non-croyants, ceux qui ne croient pas encore, à venir, mais en leur promettant des choses qui semblent trop belles. Certains vont dire « Devenez chrétien, ce sera la fin de toutes vos souffrances ». Est-ce que c'est vrai? Si vous êtes chrétien depuis plusieurs années, est-ce que vous pouvez témoigner que depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'avez plus souffert? Non. Bien, en un sens, comme Charline a témoigné, avec Jésus, tout va bien. On partage quand même le lot de souffrances que tous les humains ont sur cette terre. Même lorsqu'on est chrétien, on a même des raisons de plus de souffrir, c'est que parfois on souffre à cause qu'on est chrétien, pour le nom de Jésus, la persécution. En fait, ce qui distingue les chrétiens pendant le temps que nous avons à vivre sur terre, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est ce que nous avons vu la semaine passée avec Greg au début de Romains 8. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous enlève d'abord la condamnation. Jonathan l'a cité tantôt. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, la condamnation est enlevée. On peut maintenant affronter la vie sans avoir peur du jour du jugement. On peut se tourner vers Dieu sans craindre sa colère, sachant qu'il nous offre toujours son pardon quand on se repent. On a une assurance que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles du Dieu créateur. Donc, nous sommes des héritiers du royaume des cieux. C'est une chose déjà acquise. C'est vrai que notre corps est encore mortel à cause du péché. Notre corps n'a pas encore subi cette libération. Mais en esprit, nous sommes déjà libérés. Et maintenant, nous avons le choix. Soit que nous continuons à marcher selon notre corps corrompu, ou nous marchons selon l'esprit. Mais c'est maintenant possible, puisque le Saint-Esprit est venu en nous, de marcher d'une manière qui plaît à Dieu, qui lui est agréable. Par contre, le passage, comme l'a souligné Greg, se terminait sur une note négative où il était question de la souffrance. C'est vrai qu'à la fin des temps, nous serons rendus semblables à Christ dans sa gloire, mais nous sommes aussi semblables à Christ dans ses souffrances. Comme nous venons de le souligner, Christ a souffert, il a donné sa vie, même tout son ministère a été jonché de souffrances. Mais puisque nous devenons semblables à lui, pour le temps que nous avons sur terre, nous devons souffrir. Les vrais enfants de Dieu vont souffrir avec Christ. Mais le passage qu'on voit ce matin nous encourage parce que cette souffrance-là est temporaire. C'est pour un temps. Même si c'est bien peu de temps quand on réalise à quelle vitesse que notre vie passe. Là. Lisons ensemble Romains 8, 18 à 25. Romains chapitre 8, verset 18. Pardon. Romains 8, 18. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous souffrons, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, pour nous aider à comprendre que la souffrance est nécessaire, mais temporaire, il y a trois choses qui sont présentées. D'abord, la souffrance appartient au monde actuel seulement. Mais la gloire appartient au monde à venir. Mais le monde à venir ne sera plus caractérisé par la souffrance. Donc, ce qui attend, c'est une gloire. Donc, le contraste est mis entre la souffrance, qui est humiliante, et la gloire, la liberté glorieuse. Et troisièmement, l'espérance que nous avons dans ce monde à venir-là nous donne la persévérance. C'est bon? Donc, au sujet de la souffrance, il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui insistent sur une des causes, la raison pour laquelle les chrétiens souffrent, et c'est souvent à cause de la persécution. Si le monde a eu de la haine pour Jésus, il en a pour ses disciples, il en a pour les chrétiens. C'est inévitable. Ceux qui montrent vraiment, qui s'affichent comme étant des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, vont attirer la haine sur eux, la persécution, parce que Satan est derrière cette haine et il combat les enfants de Dieu. Mais le passage ici présente une autre cause de la souffrance qu'on peut vivre pendant notre vie, C'est une cause, en fait, qui affecte tous les êtres humains sur la Terre. C'est parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu. Il dit au verset 21, « Toute la création, finalement, est sous la servitude de la corruption. » C'est comme un esclavage. Et la création ne peut pas s'en sortir. C'est vrai que la création est très belle, comme Isaac le soulignait. Lorsqu'on regarde la beauté de l'univers que Dieu a créé, on est ébloui. Mais on doit reconnaître que dans l'univers, tout, finalement, prend fin un jour ou l'autre. Il y a des belles choses, mais il y a aussi des catastrophes. Il y a des choses qui se détruisent. Et cette création-là, elle a été soumise à la corruption. Ce n'est pas de son propre gré. Elle a été soumise, et on comprend que c'est par Dieu qu'elle a été soumise à la corruption. À l'origine, lorsque Dieu a créé l'univers, il était parfait. Les choses n'étaient pas faites pour cesser. Et l'être humain avait la possibilité de vivre pour toujours sur la Terre, d'avoir une vie éternelle. Mais malheureusement, vous savez ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit-là, que je vous défends d'en manger, là, vous mourrez. Et c'est ce qui est arrivé, c'est en fait, ils sont devenus mortels à partir de ce jour-là. Leur corps est devenu avec une durée limitée, une date d'expiration. Mais Dieu a non seulement modifié ou corrompu le corps de l'homme en conséquence de leur péché, mais toute la création aussi. Puisque l'homme est devenu mortel, la création a été comme adaptée à cette réalité d'un homme mortel. Et la création elle-même a été affectée par cela. On lit dans Genèse 3, 17, il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol, la terre, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles. Tu en mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage ou de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc, à cause du péché, l'homme est devenu mortel, mais le monde aussi a été transformé. Il est devenu, lui aussi, dans un sens, mortel. C'est-à-dire que dans le monde, tout finit par passer. C'est ce que la Bible appelle la vanité. Pardon. Le monde a été soumis à la vanité. La vanité, c'est lorsqu'une chose ne dure pas, qu'elle est éphémère, passagère, qu'une chose qui semble stable va se désagréger, s'éroder, finir par disparaître, terminer, mourir. Mais on doit avouer que tout dans le monde, tout dans l'univers est éphémère. Bon, il y a des choses qui, à nos yeux, durent longtemps, mais sur le plan de l'éternité, c'est bien peu, c'est court. Tout va finir par arrêter. Et Salomon, dans toute sa sagesse, il a étudié le monde dans lequel il vivait et il est venu à la conclusion lorsqu'il écrit l'Ecclésiaste que, qu'est-ce qui est vanité? Tout. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? La réponse, c'est rien. Tout est vanité et même les hommes qui font partie de ce monde sont aussi vanité. Les efforts d'une génération, même pour changer le monde. Il y a beaucoup de discours de motivation sur Internet qui invitent les gens à changer le monde, à faire leur part. Mais tous les efforts que notre génération pourrait faire pour changer le monde, finalement, ça va passer. Une autre génération va venir. Une génération s'en va et une autre génération vient. Il dit au verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a aucun changement qu'on va implanter qui va durer, finalement. Ça va juste revenir à l'état où c'était avant. » Y a-t-il une chose qu'on dise, « Vois, ceci est nouveau. » Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui ont précédé. Chapitre 2, il dit même que la recherche de la joie et du bonheur, quand on dit, on va profiter du moment présent, même ça, finalement, c'est vanité. J'ai dit à mon cœur, « Allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. » Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. C'est encore là une vanité. Même l'accumulation de biens et de richesses, ça peut être un bon objectif de vie, ce n'est que vanité, tout s'en va. Comme il est sorti du sein maternel à sa naissance, mais il s'en retourne nu comme il est venu. Il n'emportera de sa peine rien qui puisse emmener dans sa main. C'est encore là un malheur funeste. Il s'en ira exactement comme il était venu. Que lui restera-t-il après avoir peiné pour du vent? On pourrait dire, bon, au moins je vais accomplir quelque chose dans ma vie, l'accomplissement personnel. Ça, au moins ça a une valeur. Salomon témoigne, il dit, « Je suis devenu grand. J'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Puis j'ai envisagé tous les ouvrages de mes mains que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. » On pourrait dire, « Bien, le succès, dans ce cas-là. » Il dit, j'ai vu toute la peine et tout succès qu'une œuvre finalement ne produise que jalousie à l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore, c'est une vanité, poursuite du vent, parce qu'il y a toujours de la compétition. Quelqu'un pourrait dire, dans ce cas-là, je vais me retirer, comme la solitude volontaire. Ça va être la solution. Il dit, voilà un homme seul, sans personne d'autre. Et il se dit, mais pour qui donc, finalement, que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité. La vie elle-même, la durée de la vie. Il dit, j'ai dit en mon cœur, finalement, le sort de l'insensé m'atteindra, moi aussi. Pourquoi donc aurais-je été plus sage? Et j'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité. Le sage ne laisse point de souvenirs perpétuels, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien comme l'insensé. Le sort des humains et le sort des animaux ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle. La supériorité de l'homme, finalement, sur l'animal est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout provient de la poussière et tout retourne à la poussière. On pourrait se dire, oui, mais nous, au moins, on a conscience qu'on a existé et on veut laisser quelque chose, un héritage pour notre postérité. Y a-t-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès? Et voilà que sa part, après sa mort, est donnée à un homme qui n'en a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et même un grand mal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Si tout est vanité dans le monde, c'est parce que Dieu a soumis la création à la vanité. Ecclésiaste 7:13 dit, « Regarde l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? » Personne. Dans tous nos efforts, on ne peut pas. C'est Dieu seul qui peut le faire. Et c'est ce que Paul parle ici dans Romains 8. Toute la création est soumise, malgré elle, à la vanité et nous-mêmes. On aurait beau vouloir vivre pendant 1000 ans, on ne peut pas. On voudrait que les choses durent toujours. Malheureusement, tout finit par passer. Il y a un temps pour toutes choses. Et ici, Paul parle de la création comme si c'était une personne, comme si la création parle, espère, souffre. Puis, il dit au verset 22, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, les douleurs d'un accouchement. » Ça nous rappelle aussi le jour où Dieu a maudit l'homme et la femme. Il a non seulement parlé à Adam, mais il a aussi parlé à la femme. « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras, avec douleur. » On ne connaît pas toutes les raisons pourquoi Dieu a fait cela. Mais on voit ici, d'après les paroles de Paul, qu'il y a comme une illustration. C'est comme si les douleurs de la femme qui est sur le point d'accoucher servent à illustrer les douleurs de la création. Ce qu'ils ont en commun dans ces deux douleurs-là, c'est que c'est pour un temps. La femme ne souffre pas les douleurs de l'enfantement toute sa vie. Elle attend finalement que le bébé apparaisse et « Ah, c'est la fin des douleurs! » Ou presque. J'ai pas connu ça, là, mais bon, on m'a dit. Mais en tout cas, les contractions sont terminées. On peut dire, ouais. Mais le monde, la création attend cela. C'est comme s'il souffle les douleurs, mais l'image qui est faite justement avec les douleurs de l'enfantement, c'est que c'est pour un temps. Ça va terminer bientôt. Qu'est-ce que la création attend qui apparaisse qui va marquer la fin de ses souffrances? C'est les fils de Dieu, les enfants de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Au verset 19, il dit « La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? » En fait, vous et moi, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes déjà adopté, vous êtes déjà en esprit adopté dans la famille de Dieu, vous êtes déjà son enfant, son fils, sa fille. Nous sommes déjà nés de nouveau, en fait. Nous sommes déjà nés d'en haut, nés dans ce nouveau monde. Mais ce n'est pas encore visible. Si on regarde la photographie d'un chrétien et d'un non-chrétien, on ne verra pas la différence. Ou même en personne, en présentiel. Là. On ne va pas voir, ça demeure invisible à nos yeux. Mais lorsque Jésus va revenir, au jour du retour de Jésus, ça va être manifesté. Tout le monde va savoir finalement qui sont les enfants de Dieu. On va les voir. Et ça va être clair parce que les morts, les chrétiens parmi nous qui seront déjà décédés lorsque le Seigneur Jésus va revenir, vont ressusciter pour l'accueillir. Et ceux qui seront encore vivants, j'espère que nous serons encore vivants lorsque Jésus va revenir, on ne sait pas, mais on va avoir un corps transformé, nous aussi. Il va nous être donné un corps spirituel, glorifié, immortel, incorruptible. Un corps qui ne va plus jamais s'user, qui n'aura plus jamais mal à la gorge. Merci. « Ce sera, comme il dit au verset 21, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Wow! Donc, la gloire qui va venir dans l'univers, là, ben, c'est Jésus qui arrive, mais à cette gloire-là va s'ajouter la gloire de tous les fils de Dieu qui viennent le rejoindre pour l'accueillir, lui qui revient. Donc, ce sera la liberté glorieuse. Et comme les corps des enfants de Dieu deviendront immortels, incorruptibles, même spirituels, mais la création, elle aussi, va devoir être renouvelée, adaptée pour cette nouvelle humanité-là. Donc, la création, elle aussi, va devenir, dans un sens, immortelle, sans corruption. Elle sera, verset 21, libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Toute la création, finalement, va prendre part à cette gloire-là, en Jésus. Mais quel honneur, hein? Dieu annonce qu'il fait une nouvelle création, mais quel honneur il nous est fait, à nous, petits humains. Quand on regarde avec les télescopes, là, aujourd'hui, on a une meilleure idée de la grandeur de l'univers, même si ça nous dépasse complètement. Mais si on pouvait voir tout l'univers sur l'écran, là, il faudrait zoomer combien de fois pour finalement arriver à la planète Terre? Il faudrait zoomer combien de fois pour finalement arriver ici à Rosemont, là, puis voir les minuscules petits humains? On est rien. Qu'est-ce que l'homme pour que l'Éternel prenne garde à nous? Mais Dieu dit que cette nouvelle création-là commence par nous. Ensuite, la création sera renouvelée pour se joindre à nous, finalement, pour nous accueillir. C'est comme la première création, celle sur laquelle nous vivons. Elle a été créée, elle a été adaptée pour que Dieu mette l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Mais la nouvelle création est faite justement pour accueillir le nouveau peuple de Dieu et Dieu lui-même qui vient habiter au milieu de nous. Donc, c'est toute une gloire qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Mais voilà justement la consolation. C'est que Paul dit que toutes les pires souffrances qu'on pourrait vivre sur la terre, même le deuil, est-ce qu'il y a une souffrance pire que cela? Ou certains diront que la chose la plus précieuse, c'est la santé. Donc, quand on est atteint d'une maladie grave et finalement que nos jours sont comptés, est-ce qu'il y a une souffrance pire que cela? En tout cas, on pourrait comparer les degrés de souffrance qu'on peut vivre. Mais Paul nous dit que finalement, si on pouvait les mesurer, ces souffrances-là, ce n'est rien en comparaison à la gloire qui nous attend. C'est ça, la consolation. Ce n'est pas pour dire que nos souffrances ne sont qu'illusions, c'est des souffrances qui sont réelles. Mais le bonheur qui nous attend est tellement grand, tellement immense, que finalement, nos souffrances, là, on va considérer que c'était rien. Apocalypse 21 nous donne un peu une idée de cela. « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et continue plus loin, verset 26. « On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Plus de péché sur cette nouvelle terre. Mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. » Est-ce que vous pouvez affirmer que votre nom est inscrit dans le livre de l'agneau? Êtes-vous un enfant de Dieu? J'espère que vous pouvez le dire avec assurance. Sinon, tournez-vous vers le Seigneur. Jésus dit lui-même que si vous avez soif, il va vous donner l'eau de la vie gratuitement. Il ne vous demande pas de faire un long pèlerinage, de faire des milliers d'œuvres pour racheter les péchés que vous avez commis. C'est gratuit. Il vous demande de vous tourner vers lui, de lui dire, j'ai besoin d'être sauvé, viens me pardonner. Je suis corrompu. Et il va vous laver. Déjà en esprit, vous serez né de nouveau. Et ce qui vous attend finalement, c'est un nouveau corps. Vous allez goûter à cette résurrection et cette gloire dont auront part tous les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu attendent ce jour-là. Ils ont l'espérance. C'est le Saint-Esprit qui met cette espérance-là en nous. Et ce qui est particulier, c'est que l'espérance change notre manière de voir nos souffrances et nous donne la persévérance. C'est le troisième point On va relire, même si on a dépassé un petit peu, relisons les versets 23 à 25 dans Romains 8. Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous sommes déjà sauvés, mais c'est seulement par la foi que nous savons que nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas le voir. C'est en espérance que nous attendons ce nouveau corps. On n'a pas reçu déjà un échantillon de notre nouveau corps pour qu'on garde dans une bouteille, « Ah, ça, c'est mon futur corps. » C'est par la foi qu'on sait qu'on va avoir un nouveau corps. C'est par la foi qu'on sait qu'il va y avoir une nouvelle terre, puisque ce n'est pas encore visible. La seule chose qui nous a été donnée, qui est un gage pour nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Il est les prémices de la récolte. Les prémices, c'est les premiers fruits qu'on récolte. Donc, c'est comme un gage. Pour nous, c'est une preuve. Mais même le Saint-Esprit en nous, il est invisible, comme le vent. Tout ce qu'on voit, c'est les effets du Saint-Esprit, qui transforment notre caractère. Mais tout cela, c'est par la foi qu'on l'attribue au Saint-Esprit. Donc, finalement, toute la vie chrétienne, c'est une question de foi, d'espérance dans les choses qu'on ne voit pas. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Il pourrait nous donner tout de suite les preuves irréfutables, mais il veut qu'on le croie sur parole, qu'on lui fasse confiance. En ce sens-là, l'espérance est une chose excellente, puisque c'est ça qui nous donne la persévérance. La persévérance, même dans la souffrance. Donc, nous pouvons souffrir avec Christ, sachant que c'est temporaire, et nous pouvons finalement affronter toutes les épreuves que Dieu voudra que nous passions, toutes les injustices. Parce que nous savons que après toutes les injustices que Jésus a subies, même la mort, même d'avoir été mis dans un tombeau, Dieu l'a ressuscité. Et c'est ce qu'il nous promet à nous aussi. Donc, bien sûr, dans ce monde corrompu, il y a quand même des bonnes choses. Et Dieu veut que nous profitions. Même finalement, que tout ce que Dieu a créé, même si c'est devenu éphémère, vanité, c'est bon. Et nous pouvons en profiter. Il y a beaucoup de joie et de bénédiction. L'amitié, la famille, les bons repas, les loisirs. Pendant l'été même, on prend le temps un peu plus de réaliser ce qu'on a. Le voyage aussi. La santé, la jeunesse, mais ou même le travail, l'épanouissement dans le travail, les projets. Mais rappelons-nous que tout cela, c'est temporaire. C'est des choses que Dieu permet que nous jouissions au jour le jour, et nous pouvons lui en rendre grâce, mais ne consacrons pas notre vie dans ces choses-là comme si, en s'illusionnant comme si elles allaient durer. Celui qui investit toute sa vie, par exemple, dans le sport là, pour être en bonne forme, le jour où il devient infirme, c'est la dépression. Celui qui s'investit dans sa carrière, dans son travail, parfois il réussit à avoir une bonne carrière, mais il arrive à la retraite et c'est la dépression. Si toute notre vie, finalement, c'est les choses de ce monde qui passent, bien, on va perdre tout espoir. On peut en profiter, mais sachant que la seule chose qui a de la valeur, c'est ce qui va durer dans l'éternité. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, sincèrement, nous allons persévérer, même dans la souffrance, sachant qu'elle est temporaire et bien peu de choses en comparaison à la liberté glorieuse qui nous attend. Amen.